Vous êtes sur Okapi, une voix pour tous. Merci de nous écouter partout. Vous êtes en République démocratique du Congo. Là, c'était Silikoti. Voilà, c'est le titre de cette chanson, Silikoti, des jus d'été.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Okapi Service.
Comment lutter contre le harcèlement moral en milieu professionnel? Vous savez, il peut arriver qu'un employé subisse au quotidien le harcèlement moral dans son lieu de travail et cela finit par saper son moral, le moral de l'employé. Alors c'est quoi un harcèlement moral et comment lutter contre cela en milieu professionnel? Appelez pour participer au 081 890 63 94 et merci déjà à tous ces auditeurs qui nous ont écrit sur la page Facebook du magazine de la vie au quotidien au Okapi Service. Nous recevons à présent notre invité Polydor Tangeli. Bonjour.
Bonjour Jody.
Vous êtes psychologue et secrétaire exécutif du groupe Mossala. Nous parlons du harcèlement moral. De quoi s'agit-il?
En fait, le terme harcèlement moral regroupe les formes de violence, surtout psychologique au travail. Et c'est autrement appelé harcèlement professionnel. Il s'agit de comportements qui portent atteinte à l'intégrité physique et surtout psychologique d'une personne, à sa dignité en tant que membre d'une organisation de travail et qui a pour effet de mettre en péril l'exécution du travail et surtout aussi la position de la personne au sein de l'organisation. Mmh. Et ça aboutit en quelque sorte à ce qu'on peut appeler l'aliénation sociale dans le travail. Le harcèlement moral au travail se manifeste notamment à travers de comportements tels que l'agression verbale, privée ou publique, ça peut se faire en privé ou en public, qui se caractérise par des menaces, des discours partiels, des injures, des messages n'ayant aucune justification au lieu de travail, l'intimidation, le manque de respect ou encore le mépris. Le dénigrement des compétences, la dévalorisation systématique, souvent associée à un contrôle excessif, surtout de la part de la hiérarchie.
Oui.
Il y a le refus de promotion, des ressourcements et des soutiens professionnels à un travailleur. Mais il y a des brimades excessives, le refus de communication des informations relatives au travail. Et il y a, ça se manifeste aussi à travers l'isolement professionnel et social pouvant aller jusqu'à l'exclusion formelle ou informelle de la personne qui travaille. Et dans des entreprises, le plus visible est ce que les anglophones appellent les mobbing. Il suffit de la formation au sein d'un groupe de travail, d'une clique qui de manière fréquente et durable, ont des agissements hostiles envers un des collègues. Vous voyez?
Voilà.
Et le plus
Moi, je pensais que c'était entre l'employeur et l'employé.
Non. Pas seulement l'employeur et l'employé, mais surtout entre collègues.
Entre collègues.
Puisqu'ils vivent ensemble, ils partagent les temps ensemble.
Alors, ils se forment des petits groupes selon les intérêts.
Oui. Les mobbing qui consistent à un regroupement de personnes, une clique, au sein d'une organisation qui font qui se comportent de manière à traumatiser l'autre, à l'isoler, à l'exclure de manière informelle du système.
À les mettre mal à l'aise.
Et ça fait partie de ce que nous appelons le harcèlement moral au travail. Vous allez vous rendre compte que c'est une réalité qui est due à beaucoup de facteurs, notamment liés aux personnes qui sont dans le milieu du travail. Par exemple, vous avez un travailleur qui n'a pas à cette valeur morale, peut concourir à harceler ses collègues. Il y a un problème de background qui se pose. par rapport à cette personne-là. Il y a des personnes qui ont des valeurs de tribalisme, de cautérie, tout ça. Mmh. Ils peuvent harceler quelqu'un qui n'est pas de leur tribu au sein du milieu du travail. Mmh. Il y a aussi il y a des personnes qui ont une certaine obsession sexuelle. Et là, ça aboutit à ce qu'on appelle le harcèlement sexuel, qui voit dans le collègue de l'autre sexe que le sexe et non la collaboration. Mmh. Ce qui fait que ça peut les conduire au harcèlement sexuel. Il y a des facteurs relationnels, il y a des problèmes, des gens qui ont des problèmes de sociabilité dans le milieu des vies, hein. Ils ont des élans conflictogènes qui ne leur permettent pas de créer une ambiance favorable de travail.
Donc partout où ils sont, ils doivent toujours créer des
problèmes. Oui, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. C'est un type de comportement.
S'il n'y a pas de conflit, c'est sympa.
Bon, que les conflictogènes ne m'en veulent pas. Mais il y a aussi des facteurs sociaux liés aux conditions économiques. Puisque là où il y a une paupérisation forte, le harcèlement aussi hausse. C'est comme ça que vous verrez dans des milliers à conditions salariales peu favorables, il y a toujours du harcèlement, il y a des violences verbales, des violences, tout ça, des exclusions, un réseau informel qui s'installe et qui prend corps au détriment et au mépris des autres. Mais il y a aussi des facteurs comme
la coloration politique aussi.
Et des colorations politiques.
Les sont des terres
obéissantes. Exactement. Comme je voulais dire, les facteurs organisationnels. Mmh. Au fait, on est dans une société qui est structurée. Vous pouvez avoir, comme aux États-Unis maintenant avec les élections, une bipolarité, les républicains, les démocrates, et puis ça peut venir
même dans les lieux de travail
jusqu'à museler les autres. C'est un peu ça. Mmh. Et il y a les facteurs en vrai. Donc beaucoup de facteurs et le harcèlement moral a des effets. Les effets sont notamment au plan physiologique, c'est que la personne a un dysfonctionnement physiologique qui peut aboutir à des troubles de sommeil, à des endormissements difficiles, à des réveils anticipés, à des insomnies, ainsi de suite. Et quand il arrive au milieu du travail, il ne sait plus donner le meilleur de lui-même. Voilà pourquoi ça mérite d'être géré à bon escient. Au plan psychologique, le harcèlement moral s'accompagne aussi par des troubles d'humeur. Les troubles d'humeur, la personne qui les subit devient déprimée, anxiée. Il y a une certaine baisse de l'estime de soi, malgré son diplôme, malgré toutes les compétences qu'il a. Mais s'il trouve un milieu très violent, un milieu qui harcèle tellement, il peut tomber dans une baisse d'estime de soi jusqu'à se remettre en question, alors que le problème n'est pas lui. Mais le problème est dans les autres. Mais comment lutter?
Donc disons cet harcèlement, ça peut être entre collègues ou entre le cadre ou l'employeur et l'employé.
Exactement. On a toujours cru que c'est l'employeur ou bien l'autorité hiérarchique qui est souvent à la base du harcèlement à travers des exigences, à travers des sollicitations excessives, à travers des intimidations de renvoi, à travers tout ce que vous pouvez imaginer. Mais hélas, entre collègues, il se pose un problème de harcèlement aussi. Puisqu'au fait, lorsque on est dans une salle et qu'on arrive à me pamphléter, comprenez, ça peut constituer un harcèlement. Lorsqu'on me prive une information dont j'ai besoin pour réaliser mon travail, et on le fait pour me museler, on me fait subir ce qu'on appelle le mobbing. Vous voyez? Donc, le mobbing se fait généralement entre collègues. Entre collègues qui partagent des relations horizontales en milieu professionnel, et c'est dans ces milieux-là où le harcèlement est vraiment, vraiment fréquent.
D'accord. Moïse Tchana nous appelle de Bounia. Moïse, bonjour.
Bonjour, monsieur Hedi, et bonjour à l'EGT.
Oui, quelle est votre question, Moïse?
Avant d'aller à ma question, je voudrais relever un constat. J'ai constaté qu'en RDC, le genre d'harcèlement moral est fréquent. Et surtout, ce sont des étrangers qui l'ont... qui les manifeste ou qui les pose à l'égard des Congolais. je vois des entreprises chinoises, je vois des entreprises indiennes et tant d'autres que vous connaissez certainement. Et ce sont des cas qui sont toujours dénoncés. Et malheureusement, après, il n'y a pas de poursuites, il n'y a pas de sanctions, ce que moi je regrette. Alors ma question est celle-ci. Au cas où quelqu'un voit qu'il est harcelé, et là ne lui permet pas de donner le meilleur de lui-même, d'exceller dans son travail. Est-ce que la loi prévoit qu'il démissionne? Et s'il avait un contrat qui est à court, qu'il sollicite en fait qu'on l'indemnise, qu'on lui paye le reste des jours, parce que moi, il voit que nous, l'environnement professionnel ne lui permet pas de continuer avec son travail. C'était ça mon question et je vous remercie.
Merci Moïse. François Kalemboué de Cabinda, bonjour. Quelle est votre préoccupation? Voilà, il n'est plus en ligne. Bien, qu'est-ce que vous pouvez dire à Moïse Tchana de Bounia?
Oui, nous apprécions beaucoup le constat de Moïse qui dit qu'il y a beaucoup de harcèlement, surtout dans les entreprises qui sont gérées par des étrangers. Mais je veux pas ici qu'on fistige tout simplement les étrangers, mais c'est vécu aussi dans des entreprises des Congolais. Mmh. Voilà. Dans un petit magasin. Yo, Zoba, yo, qui dit ça qu'on a, hein? Yo, Salaboué. Mmh. Vous comprenez? Donc, sans égard,
jusqu'à considérer l'autre comme un animal, un collaborateur, qui vient vous offrir, vous êtes dans un marché, où lui vient vous offrir quelque chose que vous achetez. Mais puisque c'est vous qui êtes, c'est vous qui offrez cet emploi, vous avez la prétention de vous croire le dieu du ciel.
Mmh. Et vous le prenez pour un moins que
rien. Mmh. Et vous les harcelez à longueur de journée avec des propos. L'erreur a toujours été humaine. Hein. Et à la moindre erreur, vous dramatisez jusqu'à nier ses compétences. Comme je l'ai dit si haut, donc ça concourt au harcèlement. Alors, que faire lorsque vous êtes dans une pareille situation?
Vaut-il démissionner?
Il est de votre liberté. Il est de votre liberté.
Mais peut-être que le travail s'est dit, bon, si je démissionne, je ne vais pas trouver
ça fait
emploi,
partie de sa liberté.
Et puis, voilà.
C'est un problème d'appréciation.
Oui.
Si vous pensez que, puisque le Code du travail garantit les libertés fondamentales, puisque le Code du travail lui-même tire ses inférences de la Constitution, et la Constitution privilégie les libertés fondamentales. Si vous sentez que on vous a muselé, vous subissez les mobbing dans l'entreprise et vous n'en pouvez plus, quittez. Mais hélas, portez aussi plainte. Si c'est une xénophobie que vous subissez, portez plainte. Si c'est un harcèlement sexuel, mais faut-il encore que vous puissiez le prouver? Prouvez que vous avez été harcelé. Puisque souvent, le harcèlement moral est d'ordre verbal. C'est à travers des comportements qui ne laissent pas de traces. Il m'a dit, quelle est la preuve que vous avez? Est-ce qu'il y avait un enregistreur? Il a fait ceci. À moins que ça soit dans des conditions de transmission des éléments d'information où vous subissez un mobbing d'une clique de personnes qui vous privent des informations. Et lorsqu'on revient pour faire la traçabilité, on peut se rendre compte effectivement que pour des raisons inavouées, vous avez privé à l'autre de travailler, vous l'avez dénigré, vous avez fait ceci, cela. Donc, il est de droit, il est de sa liberté de démissionner s'il le constate. Pourquoi mourir d'un harcèlement jusqu'à acheter sa propre mort? C'est pas...
Mathieu Kibambe nous écrit des Cabinda, oui. Dans la province de Lomami. Il dit, si un employé arrive à injurier à son tour l'employeur, après qu'il ait reçu des injures de sa part et que l'employeur les révoque, alors à ce moment-là, qu'est-ce que l'employé peut faire? Est-ce que la loi condamne cela? Qu'est-ce que dit le code du travail par rapport à cela?
Voilà, bon, peut-être qu'il y aura des dimensions d'ordre juridique qui peuvent être évoquées par un inspecteur du travail. Mais cependant, à mon humble avis, j'estime que s'il y a eu des propos injuriés, hein, s'il y a eu des chamailleries au sein de l'entreprise, les responsabilités sont partagées. Et si l'autorité arrivait, votre employeur arrivait à vous, ou faire partir de l'entreprise, aller aux clauses. Il y a une convention collective, il y a la législation de l'entreprise qui est là. Allez-y, Des cas
parce que lui, il vous a injurié et l'employé aussi a répliqué.
Il a répliqué. Oui. Toutes ces choses-là doivent être codifiées dans les textes qui régissent votre entreprise en cas de ceci. Comment faire? Et saisissez directement l'inspection du travail, puisque là, il vous a exclu, il vous a renvoyé du service, mais il doit prouver. Il doit prouver. Et vous aussi, vous devez amener des preuves. Je pense que ça revient à toute oppression. Mmh. Ça renvoie plutôt à toutes les infractions qui sont commises, en milieu familial, en milieu scolaire, en milieu religieux, en milieu du travail. Et il faut porter la plainte en bonne et due forme en passant par les services attitrés.
Bien. Édouard nous appelle depuis Gabarrière, en Ituri et Malonga de Bandonouville. Édouard, bonjour. Quelle est votre question?
Bonjour, invité. Bonjour à vos parents.
Bonjour. On vous écoute, Edouard.
Oui, il y a une entreprise X qui vous engage pour travailler. Alors, avant d'être engagé, il vous demande, l'entreprise vous demande, le chef d'entreprise vous demande de signer votre salaire de 2 mois pour son compte propre. Alors, ça, ce n'est pas un harcèlement moral. Dans ce cas-là, on ne peut pas parler d'harcèlement moral. Alors, que prévoit la loi pour un tel acte?
D'accord, merci. Malonga, les bandes de Nouville, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, et bonjour à notre invité.
Bonjour. Bien, nous parlons du harcèlement moral en milieu professionnel. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ok, ça va. Moi, j'ai suivi tout ce que l'invité a dit là-bas, et vous aussi, et mes compatriotes. Moi, je vais demander à l'invité ceci. Le fait que plusieurs Congolais subissent, ils fournissent un bon travail à l'État, mais ils sont qualifiés de nouvelles unités. Il n'y a rien. Il y a ceux qui ont déjà ceux de 9 ou 10, voire même 20 ans. Ils ne reçoivent pas vraiment la qualification étatique. Est-ce que ça, on peut le qualifier que c'est un harcèlement de la part de l'État envers ces populations, ou bien ces agents, ou bien c'est quoi?
De quel type de qualification vous faites allusion?
Bon, d'être vraiment qualifié, que tu es fonctionnaire de l'État. Puisque si moi, aujourd'hui, je travaille au service de l'État, mais je suis nouvelle unité.
Donc, vous n'êtes pas mécanisé.
Je ne reçois rien.
Oui. Voilà, vous parlez de la mécanisation.
Oui.
D'accord, merci. Oui. Merci beaucoup, Polydor Tanguedi.
Bon, notre ami Iga Barrière de l'Ituri.
Édouard depuis Iga Barrière.
Depuis Iga Barrière, dit, au fait, c'est quand même regrettable,
De l'entrée.
c'est une pratique de plus en plus.
Dès l'entrée, vous subissez déjà le harcèlement. C'est déplorable. Mais que faire? En fait, ce sont des
compromis. Donc, moi, je vous aide à trouver ce travail. Mais voilà. Mais quand vous aurez votre premier, les 2 premiers salaires, donc vous le virez chez moi.
Autrement dit, qu'est-ce que le chef dit? Tu viens travailler chez moi, mais tu vas travailler affamé. Tu viendras affaibli. Hein? Tu viendras, tu me produiras ce dont j'ai besoin dans des conditions déplorables. Sans salaire, on ne saura pas déjeuner pour venir travailler.
Oui.
Donc, il faut déjà voir à quel type d'employeur on a affaire. Voilà pourquoi, à travers ces émissions pédagogiques, nous appelons les managers à un effort de revalorisation des ressources humaines.
Mais vous avez déjà entendu parler de ces genres de pratiques? Mais
exactement, c'est contre l'EGEM. En réalité, si vous faites signer un papier, brandissez ces papiers à la justice. Je pense que cette entreprise mérite d'être fermée, ou si c'est un responsable des ressources humaines.
Mais il a son salaire. Pourquoi il veut encore avoir les salaires du
travail? Peut-être que c'est une boulimie. Une boulimie de l'avarisme. Ce sont des gens qui ne sont pas à leur place. Un gestionnaire de ressources humaines, puisque ce sont eux qui sont généralement dans le processus d'embauche, ne peut pas dire ça. Puisque pour lui, le leitmotiv de ses prestations doit être la valorisation des employés. Alors que le responsable des finances est dans des calculs et des pesanteurs budgétaires et d'ordre financier, lui doit être dans cet élan de valorisation et il doit communier avec les autres départements pour que chacun dans son secteur puisse valoriser l'homme. Et si lui qui est censé le faire le fait, c'est vraiment déplorable. Il n'est pas à sa place. S'il y a une preuve, brandissez-la à la justice, à l'inspection du travail, qui a validé d'ailleurs votre contrat, hein, et qui pourra prendre ses responsabilités.
D'accord. Et Malonga nous dit, bon, il a travaillé comme fonctionnaire de l'État, il n'est pas mécanisé, il n'a pas de numéro. Alors, est-ce que c'est une forme d'harcèlement moral ou pas?
Bon, c'est quand même délicat que nous soyons dans un pays où des personnes dites nouvelles unités font 10 ans, 15 ans sans mécanisation. Au fait, il y a un certain harcèlement. Il y a un certain harcèlement. Puisque vous me demandez du travail, mais vous ne me traitez pas tel que voulu. Et là, ça peut contribuer à la baisse de mon estime, comme je l'ai dit. Puisque vous avez besoin de moi, et moi je suis là pour vous, mais vous ne me traitez pas comme je devais l'être. Mmh. Et surtout que ça touche au salaire. On vit aux dépens de son travail. Que faire? Je pense que c'est un problème de liberté. Le harcèlement touche à votre estime. Le harcèlement touche à votre personne.
Mmh. Bon. Vous vous sentez découragé.
Découragé. Dépersonnalisé.
Mmh. Vous pouvez même déprimer. Qu'on peut arriver jusqu'à
déprimer? On peut arriver jusqu'à être déprimé, anxieux. Mmh. Mais, comme je l'ai dit, comment s'en sortir? On n'en avait pas parlé. Mmh. Il y a les coping. Il y a des personnes qui s'adaptent, qui s'accommodent à ça. Il y a des nouvelles unités aujourd'hui, quand vous leur dites de quitter, ils disent, mais tu veux ma mort ou quoi? Mmh. Donc, ils s'est accommodé à la situation de nouvelles unités.
Mmh. Mais en réalité... Là, il faut avoir un moral fort.
Exactement.
Vous êtes dans un environnement où vous êtes harcelé.
Exactement.
Et accepter de faire avec, il faut avoir un moral.
Exactement. Au fait, vous pouvez centrer votre stratégie sur le problème avec des tentatives de réponse rationnelles aux attaques qui viennent de part et d'autre. Soit vous pouvez centrer la stratégie sur la recherche de soutien social à l'intérieur et extérieur de l'organisation. Voilà pourquoi certaines personnes vivent des makelemba, des ristournes au sein des entreprises pour pouvoir pallier aux insuffisances de salaire. Mais on peut aussi gérer ses émotions, comme vous avez dit, avoir un moral fort, et ça, nous cadrons ça dans la stratégie que nous appelons le coping, et qui essaye de permettre à la personne de s'adapter. Mais c'est pas facile. Il faut un accompagnement, un accompagnement conséquent lorsqu'on sent qu'on est vraiment en face d'un harcèlement moral de tous les ordres, qui peut être d'ordre organisationnel, d'ordre sexuel, d'ordre, comme vous le savez.
Mmh. Mais est-ce qu'on peut, au lieu de démissionner comme certains l'ont suggéré, est-ce qu'on peut peut-être demander les transferts dans un autre département? Vous êtes dans un département où les collègues vous harcèlent au quotidien. Est-ce qu'on peut demander qu'on vous transfère ailleurs?
En fait, c'est comme j'ai dit, il y a de stratégies rationnelles. C'est que dans mon entreprise, dans notre desk office, je suis en train de subir un mobbing où je suis muselé, je suis traumatisé, et je peux demander d'aller travailler ailleurs, c'est faisable. C'est une des stratégies, tout comme on peut faire un debriefing et une analyse objective de la situation, essayer de voir dans quelle mesure on peut surmonter. Puisqu'aujourd'hui, il y a de ceux qui peuvent témoigner qu'à l'entrée au service, ils ont été pris pour des vauriens, hein, des personnes ne pouvant rien produire. Mais aujourd'hui, ils sont les responsables départementaux. Donc, c'est pour dire, subir aujourd'hui harcèlement ou bien être victime de violences d'ordre psychologique de toutes sortes ne veut pas dire que vous ne valez rien et ne peut pas aussi vous conduire à la culture de fuite. Hein? Il faut ou d'évitement.
Il faut prouver
le contraire
par la qualité du travail.
Par la qualité du travail, et puis prouver aussi, puisque au fait, un travailleur, il est requis pour un travailleur d'avoir de fortes capacités comportementales, des fortes capacités d'anticipation. Par exemple, les conflits, c'est les conflits inaliénables à la nature humaine. Mmh. Mais comment y faire face? Vous avez un bon travail à la, bon, je peux pas citer. Bon, disons à la radio Okapi, à la MONUSCO, puisque nous sommes ici. Mais hélas, au premier mois, vous êtes victime d'un conflit.
Et souvent on dit que c'est souvent entre les dames qu'il y a beaucoup plus de conflits parmi les hommes.
Bon, c'est là ou pas? Je ne dispose pas de statistiques pour affirmer ça, oui. Mais je sais qu'en psychologie nous reconnaissons que la femme a une forte sociabilité. Mais un comportement social s'accompagne aussi des comportements antisociaux. Vous comprenez? Et lorsqu'il y a une forte dose de sociabilité, on peut facilement verser dans le comportement contraire. Mmh. Que cela soit l'apanage des femmes, je ne sais pas trop l'imaginer. Faut-il encore qu'on fasse des études expérimentales et qu'on produise des statistiques à ces propos?
Mmh. Et un auditeur propose ceci, René Gloire, depuis Kananga, il nous a écrit, il dit, pour moi, il est nécessaire d'organiser un séminaire pour apprendre aux supérieurs comment agir avec leur, agir envers leur, disons, employés, par rapport à ce genre d'harcèlement.
Exactement. Nous organisons comme ça des sessions dans des entreprises pour la valorisation des ressources humaines, et c'est sur ces points-là qu'on insiste. Au fait, il n'y a pas que les séminaires à organiser. Une entreprise qui a une forte capacité intégratrice de ses employés, notamment en les aidant à s'approprier les textes réglementaires, en les aidant à maîtriser leur mode opératoire, leur travail, tout ça.
Voilà.
En les aidant à maîtriser la déontologie dès le départ. Vous voyez, hein? Lorsqu'on procède à l'intégration, une entreprise qui a la capacité de concilier les générations anciennes et les générations nouvelles, n'aura pas ces problèmes de harcèlement. Mais lorsque on laisse les gens comme disait mon enseignant, dans un champ de maïs où tout le monde se croit être n'importe qui et c'est quoi tout permis, et ça arrive. La secrétaire qu'on vous a envoyée, qu'on vous a affectée pour vous offrir sa collaboration, plutôt que de voir en elle un secrétaire, vous voyez une dame. C'est un harcèlement. Mmh. La personne qui est plutôt un collaborateur. Mais puisque vous avez l'avantage de lui donner des ordres, vous les donnez sans estime. Vous étalez ces insuffisances en public.
Pour les ridiculiser.
Et souvent, les gens font ça lorsqu'ils sentent que la compétence qui est dans ces subalternes est une menace dans le futur, ils procèdent par des dénigrements flagrants comme ça. Non. C'est pas puisque vous êtes une autorité que vous devez vous dire tout permis envers vos subalternes. Donc, il s'agit pas seulement des séminaires. Des séminaires peuvent venir pour requinquer, à mi-parcours de la carrière. Mais je pense qu'il est de la responsabilité de l'entreprise d'asseoir les dispositifs d'intégration, les dispositifs d'humanisation de ressources humaines.
Et là, il faut faire appel aux psychologues.
Aux psychologues, aux juristes.
Des entreprises,
voilà. Oui. Il y a une approche interdisciplinaire, puisqu'au fait, il faut aussi tenir compte de la culture du milieu. Vous voyez, il y a certaines tribus, je peux pas citer, mais qui font l'objet de dénigrements, des préjugés pour rien. Et donc, dès que vous avez un collaborateur qui est de cette tribu, il veut argumenter pour vous prouver que non, chef, vous êtes dans l'erreur, vous sautez directement, ah non, voilà, vous entrez.
On déplace les débats.
On déplace les débats jusqu'à traumatiser le jeune compétent qui veut vous donner le meilleur de vous-même et vous le dénigrez. Donc, il y a aussi des dimensions anthropologiques, une approche interdisciplinaire. Normalement, lorsqu'il y a un taux élevé de harcèlement dans une entreprise, le gestionnaire doit s'asseoir et faire appel à des spécialités multidisciplinaires et pour pouvoir résoudre ce problème. Mais au plan individuel, l'individu doit aussi produire, faire ce que nous appelons le coping.
Le coping, qu'est-ce que cela veut dire?
Le coping, comme je vous avais dit, c'est une stratégie qui consiste à résoudre, à lutter face, à faire face au harcèlement en abordant le problème. En abordant le problème, en essayant de trouver la solution par rapport au problème plutôt que de le fuir, plutôt que de l'éviter.
Il faut affronter les problèmes.
Mais il y a des paliers d'intervention. Malheureusement, on ne saura pas cette année sur ça.
On va tout parler aujourd'hui. Bien, merci Polydore Tangeli, qui est psychologue et secrétaire exécutif du groupe Mossala. Et vous allez souvent dans les entreprises offrir aider, n'est-ce pas, pour des problèmes psychologiques.
Exactement, oui. Exactement.
Alors, comment peut-on vous joindre s'il y a de besoin?
On peut nous appeler au 09 99 6000 46, c'est-à-dire 0 3 9 6000 et puis 46, mais toutefois on peut aussi nous écrire à groupemossala@gmail.com.
Bien, Polydore Tangeli, merci, bonne journée.
Merci pareillement.